Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Chevel, ancien grand reporter. Elle a écrit de nombreuses biographies, Olympe de Gouges, Lucrèce Borgia, Marie Leczinska, Elisabeth Vigée-Lebrun, Eugénie de Montijo. Le roman d'amour de Georges Sand et Sainte-Geneviève, mère de Paris. Grâce à sa connaissance du monde arabe, elle a écrit également Saladin, Aïcha, la bien-aimée du prophète, Barberousse, le maître de la Méditerranée, ainsi que les cavaliers d'Allah. Geneviève Chevel, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors c'est avec votre ouvrage, Sainte-Geneviève, premier maire de Paris, que j'ai fait votre connaissance. Sainte-Geneviève, qui enfant devait redonner la vue à sa mère, qui guérissait les paralytiques, qui accomplissait des miracles, et avec votre ouvrage, j'ai découvert une femme politique d'un rôle absolument considérable. Alors, j'aimerais savoir un petit peu avant quels ont été les ouvrages qui vous ont permis de découvrir cette Sainte-Geneviève comme premier maire de Paris.
Alors oui, moi j'ai mis premier maire de Paris, premier parce que... Mais simplement, je découvre le rôle politique de Geneviève déjà ébauché et esquissé dans un ouvrage de Joël Schmitt. Oui. Sur Sainte-Geneviève, où déjà il parle un petit peu de son implication dans la vie de Lutèce, la curie, puisqu'elle elle avait hérité par son père d'un fauteuil à la curie de Lutèce. Elle était illustrissima, comme son père. Oui. Alors elle siégeait au milieu, à 20 ans, elle va siéger au milieu de tous les illustrissimes. À Lutèce.
Alors peut-être j'aimerais bien qu'on reprenne sa biographie, sa naissance, quelques dates pour que nos auditeurs imaginent Sainte-Geneviève.
Elle est née en 412, plus ou moins, on ne sait pas très bien, enfin c'est plutôt 410-412, à Nanterre, bien sûr. Et elle était, ses parents, son père était un franc, était un officier dans l'armée romaine, c'est un franc romanisé. Qui avait été général, puis a pris sa retraite, et était devenu régisseur des domaines d'empire dans tout le bassin parisien. Et il avait lui-même des propriétés importantes. C'était un patricien, enfin il avait une belle maison à Nanterre, une très belle propriété. Geneviève était la fille unique, donc riche héritière.
C'est ça.
Et le père n'avait qu'une sœur, qui avait, elle aussi, d'énormes propriétés. Elle, c'était au nord de la Seine, dans la région de Meaux.
Donc, elle va hériter aussi
et
de sa
tante. Et plus tard, donc, Geneviève va hériter donc de son père. Et ensuite, plus tard, elle va hériter de la tante. Et elle va devenir l'une des plus importantes propriétaires terriennes de toute cette région du bassin parisien, vous voyez, au-delà. Et elle devait être l'une des trois ou quatre grandes fortunes de l'époque.
Oui. Alors, époque, un petit tableau de la Gaule romaine.
Eh bien, à ce moment-là, cette Gaule romaine, elle était bien petite, c'était réduite à peau de chagrin, puisque c'était la région entre la Somme et la Loire.
C'est ça.
La Somme au nord, bordée par les Francs, enfin c'est la Belgique, c'était la Belgique seconde, là c'était au nord, et au-delà c'était le royaume franc, et au sud, alors ça allait jusqu'à la Bretagne,
Loire,
mais au sud, la Loire, bordée par la Loire, et au sud de la Loire, c'était les Visigoths, jusqu'à Toulouse, qu'aux Pyrénées, et à l'est, de tout le bassin rhodanien limitait cette Gaule.
Voilà, c'est ça.
Le bassin rhodanien à l'est qui était tenu par les Ostrogoths.
Oui, c'est ça. Il faut bien se mettre en mémoire que cette Gaule, elle était petite. En fait.
Très petite. Peut-être que la Gaule romaine était énorme, mais les Romains, petit à petit, pour faire la paix avec les barbares, chaque fois signaient des contrats de paix. Et on signait la paix et on offrait aux barbares les terres qu'ils avaient conquises.
Oui.
Comme ça, voilà, et les Romains, petit à petit, se sont retirés. Et à cette époque-là, on va voir que pendant la vie de Geneviève, l'empereur romain à Rome ne sera même plus un Romain. Petit à petit, ça va devenir un Ostrogoth.
Eh oui, c'est ça.
Donc, peu à peu, les barbares ont encerclé, ont fait détruire, ils ont conquis l'Empire romain, les territoires romains, et il ne restait plus que le dernier morceau, et il restait plus que Syagrius, c'est le dernier représentant de Rome, là, en Gaule, établi à Soissons. Il va faire la guerre contre les Visigoths, enfin tout ça, il va lui aussi disparaître, à tel point que on sait très bien que c'est là que Geneviève le sait, que les barbares vont, que la Gaule va disparaître.
Oui.
Les barbares sont autour, et on ne sait pas de quel barbare va prendre la Gaule. Ils se disputent tous ces morceaux de Gaule.
Ah oui, c'était horrible à cette époque. C'était
les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs.
Ouais, ouais.
Donc, à ce moment, elle sait très bien que son père est un ancien officier de l'armée romaine.
Oui, c'est ça, il faut bien le dire.
Et il a fait la guerre contre les barbares. Elle sait très bien ce que c'est que la guerre contre les barbares. Elle a vu dans son enfance, son père lui a raconté comment les barbares ont avancé, les Romains qui ont lâché des morceaux de territoire gaulois, de la Gaule, si vous voulez, à ces barbares pour avoir la paix. Puis petit à petit, vous voyez ce pouvoir romain, même à Rome, qui diminue, s'affaiblit, au point que un empereur Ostrogoth va monter sur le trône à Rome, et que donc Rome n'est plus dans Rome.
Exactement, oui.
Alors, elle grandit, elle voit, mais la Gaule est là, mais elle sait qu'un jour ça va disparaître, et elle se dit qu'il faut lutter, qu'il faut se battre, et donc quand son père meurt, elle a 18 ans, et
avant, elle a été consacrée quand même.
Elle a pu se faire comprendre parce qu'elle
est
très vite. Oui. Elle a dit qu'elle voulait être épouse du Christ.
Épouse du Christ.
Vierge consacrée. Il n'y avait pas de monastère, de couvent de religieuses à l'époque. Il y avait un couvent en Italie. Oui. Mais voilà. En Gaule, ça n'existait pas. Et donc, il y avait tout de même des confréries de vierges consacrées. Alors, deux ou trois comme ça.
D'autant qu'elle avait rencontré cet évêque.
Et l'évêque Germain, qui a tout de suite reconnu, qui a, si vous voulez, un petit peu patronné son enfance, son éducation, dirons-nous, sa préparation, et qui, justement, insiste auprès du père en lui disant ne contrariez pas les projets, le désir de votre fille. Et ce sera, elle est bénie de Dieu.
Oui. Il lui donne une médaille,
et
d'ailleurs.
Et lui-même lui donne une pièce de monnaie qu'elle porte à son cou.
Voilà.
Les monnaies étaient trouées à l'époque, donc elle la porte à son cou, elle l'a portée jusqu'à sa mort. Et puis, elle suit ses directives. Plus tard, elle le retrouvera à Paris, viendra la voir, elle est en mauvaise posture, mais donc elle est bénie. Et donc, elle se fait consacrer. Elle a une dispense, quelque part, on obtient.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, déjà, elle a rendu la vue à sa mère.
Alors, justement, un jour, elle s'est disputée avec sa mère, et elle prie beaucoup, et sa mère est en colère, tout ça, et devient aveugle, l'empêche d'aller à l'église comme elle le voulait, et donc devient aveugle, et un beau jour, Geneviève pleure au bord du puits parce qu'elle va puiser l'eau, elle fait toutes les tâches ancillaires et tout, et pleure, ses larmes tombent, et puis à un moment, comme sa mère a des brûlures aux yeux, elle prend de cette eau, lui met sur les yeux pour la soulager, et elle retrouve la vue.
Oui.
Alors du coup, là, bien sûr, la nouvelle se répand, des tas de gens de Nanterre viennent, et aussi des aveugles.
Ils sont guéris.
Et elle les guérit. Et puis, elle va guérir des maladies de peau, des tas de choses. Elle touche les oreilles entendent, les yeux voient, les aveugles voient, les sourds entendent, des gens qui ont le pied tordu, des rhumatismes, et tout. Elle est une sorte d'ostéopathe qui...
Donc, elle connaît beaucoup de monde elle est connue.
Elle lit énormément, elle connaît la science des plantes, le pouvoir, si vous voulez, des plantes. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand les parents meurent, l'un après l'autre, l'un suivant l'autre très vite, elle ne peut pas rester, elle est femme, donc vierge consacrée, elle ne peut pas vivre seule dans sa maison, dans la maison de ses parents dont elle a hérité.
Oui.
Alors finalement, elle la donne à un régisseur qui s'occupe de tout, la met en location quelque part, et elle est obligée.
Elle s'occupe quand même de ses terres, c'est elle qui va chercher l'argent.
Et donc elle va, ça ne le fait pas encore à Nanterre, mais la seule chose c'est qu'elle quitte Nanterre et elle va habiter Lutèce, la grande ville. Et elle habite chez sa tante. Or, sa tante est mariée à un officier de l'armée romaine. Et ils ont une très belle maison qui est aujourd'hui, c'est le parvis de Notre-Dame, une partie qui est sur les berges de la Seine. Donc, la maison avec un jardin qui descend vers la Seine, là, à l'endroit du parvis de Notre-Dame. Et donc, c'est une maison patricienne, très belle, et elle choisit un endroit, enfin une chambre retirée, pour avoir son indépendance et vivre ses retraites. Elle mange très peu, elle jeûne.
Elle jeûne.
Elle ne mange, elle se fait elle-même sa nourriture, ce sont des purées de pois, genre de pois cassés, vous savez, et qu'elle fait cuire à l'eau, et de fèves, pas des pois cassés, des fèves. La fève, il n'y avait pas de pommes de terre à l'époque.
Non,
c'était les fèves, des purées de fèves, et qu'elle faisait pour la semaine. Et alors, les derniers jours, elle rajoutait de l'eau et elle en faisait une espèce de brouée. Vous voyez,
elle mangeait très peu.
Elle mangeait deux fois par semaine.
Oui.
Et elle priait. Et elle buvait beaucoup d'eau. Et un peu de pain. Aussi qu'elle trempait dans de l'eau. Alors, à un moment, elle a eu des maladies, enfin, elle a été comme paralysée. Bon, c'est arrangé. Et puis, les évêques, après, lui ont dit, quand elle a eu 40 ans, elle avait des problèmes les articulations de l'arthrose, elle avait des problèmes d'arthrose. Donc, on lui a conseillé de boire du lait, et de manger de temps en temps un peu de viande, quelque chose. Alors elle s'est permis des poissons. Un poisson par semaine, et boire du lait et un peu plus de pain. Enfin, donc elle a un petit peu enrichi sa nourriture. Mais ça, c'est pas l'important. Alors elle vivait toujours habillée en vierge consacrée avec sa grande robe blanche, une ceinture en cordelière, vous voyez, une grosse corde qui en guise de ceinture, des cothurnes, des sandales genre cothurnes romaines, vous voyez, aux pieds, qui remontaient les lanières remontant jusqu'aux genoux, et une espèce de bandeau de couleur, violet, pourpre, qui entourait la tête, faisait comme une coiffe, une toque, vous voyez.
Oui.
Et ses longs cheveux blonds qui sortaient de là, avec ses grands yeux pâles. Donc elle était très franque, c'était une femme de l'Est, le type slave. Et évidemment, on la voyait, on savait que c'était, devinait l'origine franque. Elle parlait le franc ancien. Et puis donc à Lutèce, elle hérite par son père, elle habite chez sa tante, elle hérite de ce fauteuil à la curie romaine, à la curie de Lutèce. La curie, c'était un genre de mairie et préfecture, et c'était l'administration de la ville.
Exactement.
Et lui donne un poste, elle est responsable de la nonne. La nonne, c'est le ravitaillement. Donc, il faut assurer le ravitaillement pour tous les citoyens, les habitants de la ville. Donc, arrivée du ravitaillement, c'est sur les berges de la Seine, les bateaux qui apportent le blé, qui apportent des légumes, qui apportent la cervoise, enfin, vous voyez, tous ces trucs.
Oui.
Donc, elle connaît les nôtres, les patrons de bateaux.
C'est ça, et ça, c'est très important. Mais si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Geneviève Chauvel et nous évoquons Sainte-Geneviève, le premier maire de Paris. Vous avez déjà évoqué une partie de sa jeunesse, mais il nous reste maintenant le point très important, à savoir ce qu'elle va faire, puisqu'elle est proche des bateaux.
Alors, non, je vous disais donc elle connaissait les patrons des nôtres et tout cela, mais là, le point, c'est qu'elle a une position, une fonction administrative importante, puisque, ayant hérité du fauteuil, son père déjà était membre de la curie, c'est-à-dire un genre de la préfecture et la mairie. Elle est illustrissime, elle a ce titre de illustrissime. Elle siège avec d'autres membres de la curie, genre de sénateur, si vous voulez. Et elle a 20 ans, et tous ces sénateurs aguerris, c'est elle qui finalement va leur donner des ordres au fur et à mesure de la dégradation de la situation politique.
Oui, parce que ça, alors, c'est pas brillant.
Et beaucoup de gens de Gaulois, enfin des Gallo-Romains, on les appelait les Gallo-Romains, déjà commençaient à virer leur cutie et à se dire, ils savaient que les barbares allaient envahir soit les Ostrogoths, soit les Visigoths, allaient manger ce dernier morceau de Gaule, de Gaule romaine, et que, eh bien, on se préparait déjà à nouer des alliances pour avoir une bonne place dans la future administration visigothique et c'était tous ces gens étaient ariens. C'est ça qu'il faut voir. Leur religion, c'était l'arianisme. Et déviation du christianisme et catholicisme, je veux dire, et les Francs qui étaient païens. Et Geneviève est là au milieu, elle voit tout cela, elle voit tous ces gens, ces gallo-romains qui déjà pactisent avec l'ennemi, avec le barbare, pour se préparer leur place de futur. Et elle se dit, il faut trouver le bon barbare qui prendra la Gaule et qui va assurer la pérennisation de la culture romaine et de la religion catholique romaine. Elle, c'était les deux points importants qu'elle veut préserver. Et alors, elle cherche dans sa tête et elle ne voit, elle en voit qu'un, c'est Clovis.
Oui.
Parce que les Francs. Bon. Alors, évidemment, arrive tout d'un coup l'histoire d'Attila, qui déborde sur l'Est et qui menace, tout le monde dit, il arrive sur Paris.
Avec 600 000 guerriers.
Oui, c'est une armée incroyable, et partout il passait, l'air ne repoussait plus. Oui. Donc, on se dit, il va arriver, et les hommes prenaient des bateaux, mettaient leur déménagement, leurs meubles et tout ça sur les bateaux pour s'enfuir.
Oui.
Et elle, d'abord, prend les femmes, elle les réunit dans le baptistère, dont elle avait les clés, et elle dit, il faut prier. Je vous le dis, Attila ne viendra pas jusqu'à Paris. Alors, enfermons-nous dans le baptistère et prions. Et les hommes, les maris, c'était des officiers, des fonctionnaires, tout cela, des grands commerçants et tout. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils pensent qu'à l'argent, ils se disent, allez, hop, on met les meubles dans le bateau, on s'en va. Et puis quand Attila aura bien rasé la ville, il aura pris ce qu'il voulait, il partira. Il ne va pas rester. On sait bien qu'Attila court de tous côtés. Donc, elle leur dit non, ne partez pas, vous laissez la place vide. Et puis de toute façon, si ce n'est pas Attila, ce seront les barbares qui vont venir, les autres. Et ça, ils s'en fichaient. Donc, on a voulu la tuer. Lui mettre une grosse pierre autour du cou et la jeter dans la Seine. C'est là que Saint-Germain arrive, la sauve, tout ça. Et puis, là-dessus, elle continue à avoir son poids. Les femmes l'écoutent, continuent à prier. Et on se rend compte que Attila, arrivé à Soissons, il descend sur Orléans, il ne vient pas sur Paris. Et alors, là, tout le monde se met à genoux devant Geneviève, et on lui dit, c'est vous qui aviez raison, on s'excuse, mais maintenant c'est vous, on vous écoutera, on ne met plus en doute les décisions que vous prendrez, et c'est comme cela qu'elle devient, et il y a beaucoup de sénateurs qui étaient partis, qui avaient fui, Et du coup, elle devient la présidente de la curie. C'est elle qui prend le pouvoir et c'est elle la maîtresse de Paris. Le chef.
Oui.
Le chef de la ville. Et si bien que plus tard, il va y avoir les guerres avec Syagrius, le dernier représentant romain et tout ça, et que les Visigoths, enfin, d'abord les Francs, il va y avoir la bataille de Tolbiac, mais c'est là que il y a le père de Clovis qui connaît bien Geneviève, qui a été une espèce de régisseur de Paris aussi, qui venait là, il tenait les troupes de sécurité. Et alors, il meurt, et du coup, Clovis devient le roi des Francs. Il a 15 ans, mais il a connu Geneviève, il était petit.
Oui.
Et Geneviève réfléchit et se dit, Clovis a toujours eu une admiration pour Rome, la grandeur de Rome, l'empire romain. Donc il ne détruira pas Lutèce, les palais romains, il ne détruira pas et il va maintenir cette civilisation, cette culture. Et en plus, eh bien, il faut le pousser à se faire baptiser.
Oui.
Alors quand Clovis
le marie, enfin.
Quand Clovis se présente aux portes de Paris avec ses armées, ses troupes, elle lui dit, d'abord, elle relève les passerelles, on ne peut pas entrer, et elle lui dit, tu n'entreras dans Lutèce que lorsque tu seras baptisé chrétien, catholique. Et parce que les Lutétiens veulent un roi catholique. Ils ne méritent pas autre chose. Ils ne veulent pas d'autre chose. Et donc là, Clovis comprend. Entre-temps, Geneviève a un allié puissant qui est l'évêque de Reims, Rémy.
Oui.
Avec lui, Rémy a une certaine influence sur Clovis. Et parce que Clovis s'est rendu compte qu'il faut respecter les évêques. Il est intelligent. Petit à petit, il va se rendre compte que, effectivement, toute la Gaule romaine, et même chez les Visigoths et les Ostrogoths, il y a encore des évêques catholiques qui ont leurs évêchés. Et c'est eux qui connaissent les populations, c'est eux qui tiennent les fils de l'administration, et que ce sont des alliés formidables, importants, pour gouverner cette Gaule. Et donc, déjà, il y a la bataille de Tolbiac.
Oui.
Entre-temps, Rémy lui a trouvé, l'a mis sur le chemin de Clotilde. Donc, on lui met dans son lit une femme catholique. Elle ne réussit pas à le convaincre de se convertir. Parce que cette religion franque, Wotan, tout ça, c'est toutes ses armées, il est une espèce de dieu pour son armée, et que s'il se fait catholique, il n'aura plus d'armée, on va lui tourner le dos, il sera nu. Et c'est ce qu'il croit. Et puis finalement, donc, il y a Tolbiac où il voit qu'il va perdre la bataille, et on connaît la légende, il se met à genoux, Dieu de Clotilde, sauve-moi. Et après cela, il va donc dans les Ardennes. Là, cette victoire l'impressionne tellement qu'il part dans les Ardennes, il fait une espèce de tour de triomphal sur ses terrains conquis, et il rencontre Vaste, l'évêque qui sera Saint Vaste, qui parle l'ancien allemand et le vieux franc, et donc il parle la même langue, et il lui dit, écoute, enseigne-moi cette religion, parce qu'effectivement, je pense que je vais me faire baptiser, mais je veux connaître cette religion. Donc il le ramène à Soissons, où il habite, et il s'instruit, et puis après, il y a la bataille de Vouillé. Là, il gagne, tue le roi des Visigoths, il va jusqu'à Toulouse, enfin bon, la victoire formidable. Il reçoit les honneurs de Rome, l'empereur Ostrogoth le félicite, lui envoie tout le péplum, les couronnes et tous les machins, le sceptre du pouvoir et tout. Il fait son défilé triomphal dans la ville de Tours, car il revient, et il tient à passer par Tours, pour voir ce fameux tombeau de Saint-Martin. Tours, c'était Lourdes aujourd'hui.
Oui.
Alors, donc, il passe par Tours, il voit la ferveur, parce qu'il se dit, mais enfin, quand même, ce Dieu qui se fait crucifier, puis marcher pieds nus dans des sandales, et qui meurt sur une croix, quel pouvoir a-t-il ? Et il passe par Tours et il voit la ferveur autour du tombeau de Saint-Martin. Et là, il dit à son secrétaire, « J'ai compris, je me fais baptiser, prépare les festivités. » Et un an plus tard, il a le baptême à Reims. Et à ce moment-là, il vient, 15 jours plus tard, il arrive à Lutèce avec Clotilde, il est baptisé. De tout, la plupart de ses guerriers se sont fait baptiser avec lui. Et là, Geneviève descend les passerelles, le reçoit au milieu de la passerelle, c'est la gouverneure de Paris, elle est le gouverneur de Lutèce, et elle lui remet les clés, solennellement, les clés de la ville. Elle deviendra sa conseillère et tout, à tel point. Et Clovis aime tellement Geneviève, il suit ses conseils, il l'écoute, à tel point que, quand il mourra, il fait bâtir une cathédrale sur l'emplacement du lycée Henri IV d'aujourd'hui, sur la montagne Sainte-Geneviève, et il se fera enterrer dans cette basilique, et Geneviève, à côté, le mausolée de Geneviève, aussi le tombeau de Geneviève, à côté de lui, dans cette église.
Oui.
Et plus tard, Clotilde se fera enterrer là, les enfants de Clotilde et Clovis se feront enterrer aussi. Mais après, c'est une autre histoire, beaucoup plus tard. Il y a toute l'histoire, évidemment, que je donne aussi, l'histoire de la chasse de Geneviève, qui a fait des miracles,
peut-être,
les processions et tout ça. Donc c'est toute une vie qui continue. Geneviève, c'est pas seulement de 412 à 511, car elle est morte à 90 ans.
Oui, avec ce régime,
incroyable.
Presque, oui.
Et elle est là, et elle continuait pendant des siècles à protéger Lutèce.
Oui, parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, eh bien, les gens venaient prier.
Bien sûr.
Ça peut être, oui.
Et après, à sa mort, il y a eu des morceaux du squelette qu'on a pris, des reliques, oui. Comme reliques, qu'on a mis dans toutes les églises des villages où elle était passée. Car elle voyageait beaucoup, Geneviève. Elle voyage à Orléans, voyage à Tours, en fait, tout ça. Tout ça est dans mon livre, on n'a pas le temps de raconter tout. Mais il y a cette vie, moi, quand je ne connaissais pas Geneviève, moi, je pensais, pourtant, c'est ma patronne, je la connaissais mal, la petite bergère de Nanterre qui gardait les moutons, hein, une petite pauvre, comme Jeanne d'Arc, on disait la bergère et tout. Eh bien, non. Et je rencontre une femme étonnante, cultivée, intelligente et qui a le souci politique, le souci des habitants, de défendre le pays, un souci national quelque part, patriotique, et fidèle à cette civilisation qui la nourrit, la civilisation, la culture romaine et la religion catholique romaine. Et sans Geneviève, je pense qu'il n'y aurait pas eu Clovis chrétien. Donc, pas les rois chrétiens qui ont fait la France.
Oui, c'est pour
elle
ça.
Elle a fait naître l'embryon de la France d'aujourd'hui.
Oui.
La France chrétienne, la France catholique romaine et de tous ces rois très chrétiens.
Oui, voilà. On peut dire que les femmes, parce que c'est aux femmes qu'elle s'est adressée.
Elle a su dominer les hommes, parce qu'elle n'avait pas le droit de parler, de donner des ordres aux hommes, mais par les femmes... Elle a touché les hommes.
Oui, parce que ça, on ne peut pas oublier quand elle a fait son sermon aux femmes en leur disant « résistez, résistez
oui. ».
Et ça, je crois que c'est une page vraiment importante.
C'est une page très importante.
Mais écoutez, un grand merci Geneviève Chevel. Je crois que nos auditeurs auront à cœur de se procurer ce livre « Sainte Geneviève, première mère de Paris, Geneviève Chevel » avec une préface de Jean-François Kahn. Ceci.
Et nous rappelons que cette année... C'est le 1600e anniversaire de sa naissance, et c'est l'année Sainte-Geneviève, et décembre, il y aura un jubilé.
Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiorancielle.fr. Merci, Geneviève Chevel. Merci.